Victor Hugo, Actes et paroles, le centenaire de Voltaire. 30 mai 1878. Il y a 100 ans aujourd'hui, un homme mourait. Il mourait immortel. Il s'en allait chargé d'années, chargé d'œuvres, chargé de la plus illustre, de la plus redoutable des responsabilités, la responsabilité de la conscience humaine avertie et rectifiée. Il s'en allait maudit par le passé, béni par l'avenir, et ce sont là, messieurs, les deux formes superbes de la gloire. Il avait à son lit de mort, d'un côté l'acclamation des contemporains de la postérité, de l'autre ce triomphe de huées et de haine que l'implacable passé fait à ceux qui l'ont combattu. Il était plus qu'un homme. Il était un siècle. Il avait exercé une fonction et rempli une mission. Il avait été évidemment élu pour l'œuvre qu'il avait faite par la suprême volonté qui se manifeste aussi visiblement dans les lois de la destinée que dans les lois de la nature. Les 84 ans que cet homme a vécu occupent l'intervalle qui sépare la monarchie à son apogée de la révolution à son aurore. Quand il naquit, Louis XIV régnait encore, et quand il mourut, Louis XVI régnait déjà, de sorte que son berceau put voir les derniers rayons du grand trône, et son cercueil, les premières lueurs du grand abîme. Applaudissements. Avant d'aller plus loin, entendons-nous, messieurs, sur le mot abîme. Il y a de bons abîmes. Ce sont les abîmes où s'écroule le mal. Messieurs, puisque je me suis interrompu, trouvez bon que je complète ma pensée. Aucune parole imprudente ou malsaine ne sera prononcée ici. Nous sommes ici pour faire acte de civilisation. Nous sommes ici pour faire l'affirmation du progrès, pour donner réception aux philosophes des bienfaits de la philosophie, pour apporter au XVIIIe siècle le témoignage du XIXe, pour honorer les magnanimes combattants et les bons serviteurs, pour féliciter le noble effort des peuples, l'industrie, la science, la vaillante marche en avant, le travail, pour cimenter la concorde humaine, en un mot, pour glorifier la paix, cette sublime volonté universelle. La paix est la vertu de la civilisation. La guerre en est le crime. Nous sommes ici, dans ce grand moment, dans cette heure solennelle, pour nous incliner religieusement devant la loi morale et pour dire au monde qui écoute la France ceci: il n'y a qu'une puissance, la conscience au service de la justice, et il n'y a qu'une gloire, le génie au service de la vérité. Cela dit, je continue. Avant la Révolution, messieurs, la construction sociale était ceci: en bas, le peuple, au-dessus du peuple, la religion, représentée par le clergé, à côté de la religion, la justice, représentée par la magistrature, et à ce moment de la société humaine, qu'était-ce que le peuple? C'était l'ignorance. Qu'était-ce que la religion? C'était l'intolérance. Et qu'était-ce que la justice? C'était l'injustice. Vais-je trop loin dans mes paroles? Jugez-en. Je me bornerai à citer deux faits, mais décisifs. À Toulouse, le 13 octobre 1761, on trouve dans la salle basse d'une maison un jeune homme pendu. La foule s'ameute, le clergé fulmine, la magistrature informe. C'est un suicide. On en fait un assassinat. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt de la religion. Et qui accuse-t-on? Le père. C'est un huguenot, il a voulu empêcher son fils de se faire catholique. Il y a monstruosité morale et impossibilité matérielle. N'importe. Ce père a tué son fils, ce vieillard a pendu ce jeune homme. La justice travaille, et voici le dénouement. Le 9 mars 1762, un homme en cheveux blancs, Jean Calas, est amené sur une place publique. On le met nu, on l'étend sur une roue, les membres liés en porte-à-faux, la tête pendante. Trois hommes sont là, sur l'échafaud. Un capitoul nommé David, chargé de soigner le supplice. Un prêtre qui tient un crucifix et le bourreau, une barre de fer à la main. Le patient, stupéfait et terrible, ne regarde pas le prêtre et regarde le bourreau. Le bourreau lève le bras de fer et lui brise un bras. Le patient hurle et s'évanouit. Le capitoul s'empresse, on fait respirer des sels au condamné. Il revient à la vie. Alors, nouveau coup de barre, nouveau hurlement. Calas perd connaissance. On le ranime et le bourreau recommence. Et comme chaque membre, devant être rompu en deux endroits, reçoit deux coups, cela ça fait 8 supplices. Après le 8e évanouissement, le prêtre lui offre le crucifix à baiser. Calas détourne la tête et le bourreau lui donne le coup de grâce, c'est-à-dire lui écrase la poitrine avec le gros bout de la barre de fer. Ainsi expira Jean Calas. Cela dura 2 heures. Après sa mort, l'évidence du suicide apparut. Mais un assassinat avait été commis. Par qui? Par les juges. Autre fait. Après le vieillard, le jeune homme. 3 ans plus tard, en 1765, à Abbeville, le lendemain d'une nuit d'orage et de grand vent, on ramasse à terre, sur le pavé d'un pont, un vieux crucifix de bois vermoulu qui, depuis 3 siècles, était scellé au parapet. Qui a jeté bas ce crucifix? Qui a commis ce sacrilège? On ne sait, ou peut-être un passant, peut-être le vent. Qui est le coupable? L'évêque d'Amiens lance un monitoire. Voici ce que c'est qu'un monitoire. C'est un ordre à tous les fidèles, sous peine de l'enfer, de dire ce qu'ils savent ou croient savoir de tel ou tel fait. Injonction meurtrière du fanatisme à l'ignorance. Le monitoire de l'évêque d'Amiens opère. Le grossissement des commérages prend les proportions de la dénonciation. La justice découvre ou croit découvrir que dans la nuit où le crucifix a été jeté à terre, 2 hommes, 2 officiers, nommés l'un Labarre, l'autre Détalonde, ont passé sur le pont d'Abbeville, qu'ils étaient ivres et qu'ils ont chanté une chanson de corps de garde. Le tribunal, c'est la sénéchaussée d'Abbeville. Les sénéchaux d'Abbeville valent les capitouls de Toulouse. Ils ne sont pas moins justes. On décerne 2 mandats d'arrêt, Détalonde s'échappe, Labarre est pris. On le livre à l'instruction judiciaire. Il nie avoir passé sur le pont, mais il avoue avoir chanté la chanson. La sénéchaussée d'Abbeville le condamne. Il fait appel au Parlement de Paris. On l'amène à Paris. La sentence est trouvée bonne et confirmée. On le ramène à Abbeville, enchaîné. J'abrège, l'heure monstrueuse arrive. On commence par soumettre le chevalier de Labarre à la question ordinaire et extraordinaire pour lui faire avouer ses complices. Complices de quoi? D'être passé sur un pont et d'avoir chanté une chanson? On lui brise un genou dans la torture. Son confesseur, en entendant craquer les os, s'évanouit. Le lendemain, le 5 juin 1766, on traîne la barre dans la grande place d'Abbeville. Là, flambe un bûcher ardent. On lit sa sentence à la barre. Puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une tenaille de fer, puis par grâce, on lui tranche la tête et on le jette dans le bûcher. Ainsi mourut le chevalier de la barre. Il avait 19 ans. Alors, ô Voltaire, tu poussas un cri d'horreur et ce sera ta gloire éternelle. Alors tu commenças l'épouvantable procès du passé. Tu plaidas contre les tyrans et les monstres la cause du genre humain et tu la gagnas. Grand homme, sois à jamais béni. Messieurs, les choses affreuses que je viens de rappeler s'accomplissaient au milieu d'une société polie. La vie était gaie, légère, on allait et venait, on ne regardait ni au-dessus ni au-dessous de soi. L'indifférence se résolvait en insouciance. De gracieux poètes, Saint-Aulaire, Boufflers, Gentil-Bernard, faisaient de jolis vers, la cour était pleine de fêtes, Versailles rayonnait, Paris ignorait. Et pendant ce temps-là, par férocité religieuse, les juges faisaient expirer un vieillard sur la roue et les prêtres arrachaient la langue à un enfant pour une chanson. Vive émotion, applaudissements. En présence de cette société frivole et lugubre, Voltaire seul, ayant là sous ses yeux toutes ses forces réunies, la cour, la noblesse, la finance, cette puissance inconsciente, la multitude aveugle, cette effroyable magistrature, si lourde au sujet, si docile au maître écrasant et flattant, à genoux sur le peuple, devant le roi. Ce clergé, sinistrement mélangé d'hypocrisie et de fanatisme, Voltaire seul, je le répète, déclara la guerre à cette coalition de toutes les iniquités sociales, à ce monde énorme et terrible, et il accepta la bataille. Et quelle était son arme? Celle qui a la légèreté du vent et la puissance de la foudre. Une plume. Avec cette arme, il a combattu. Avec cette arme, il a vaincu. Messieurs, saluons cette mémoire. Voltaire a vaincu. Voltaire a fait la guerre rayonnante, la guerre d'un seul contre tous, c'est-à-dire la grande guerre. La guerre de la pensée contre la matière, la guerre de la raison contre le préjugé, la guerre du juste contre l'injuste, la guerre pour l'opprimé contre l'oppresseur, la guerre de la bonté, la guerre de la douceur. Il a eu la tendresse d'une femme et la colère d'un héros. Il a été un grand esprit et un immense cœur. Il a vaincu le vieux code et le vieux dogme. Il a vaincu le seigneur féodal, le juge gothique, le prêtre romain. Il a élevé la populace à la dignité de peuple. Il a enseigné, pacifié et civilisé. Il a combattu pour Syrienne et Montbailly comme pour Calas et Labarre. Il a accepté toutes les menaces, tous les outrages, toutes les persécutions, la calomnie, l'exil. Il a été infatigable et inébranlable. Il a vaincu la violence par le sourire, le despotisme par le sarcasme, l'infaillibilité par l'ironie, l'opiniâtreté par la persévérance, l'ignorance par la vérité. Je viens de prononcer ce mot, le sourire, je m'y arrête. Le sourire, c'est Voltaire. Disons-le, messieurs, car l'apaisement est le grand côté du philosophe. Dans Voltaire, l'équilibre finit toujours par se rétablir. Quelle que soit sa juste colère, elle passe, et le Voltaire irrité fait toujours place au Voltaire calmé. Alors, dans cet œil profond, le sourire apparaît. Ce sourire, c'est la sagesse. Ce sourire, je le répète, c'est Voltaire. Ce sourire va parfois jusqu'au rire, mais la tristesse philosophique le tempère. Du côté des forts, il est moqueur. Du côté des faibles, il est caressant. Il inquiète l'oppresseur et rassure l'opprimé. Contre les grands, la raillerie. Pour les petits, la pitié. Ah, soyons émus de ce sourire. il a eu des clartés d'aurore. Il a illuminé le vrai, le juste, le bon et ce qu'il y a d'honnête dans l'utile. Il a éclairé l'intérieur des superstitions. Ses laideurs sont bonnes à voir, il les a montrées. Étant lumineux, il a été fécond. La société nouvelle, le désir d'égalité et de concession, et ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance, la bonne volonté réciproque, la mise en proportion des hommes et des droits, la raison reconnue loi suprême, l'effacement des préjugés et des partis pris, la sérénité des âmes, l'esprit d'indulgence et de pardon, l'harmonie, la paix, voilà ce qui est sorti de ce grand sourire. Le jour prochain, sans nul doute, où sera reconnue l'identité de la sagesse et de la clémence, le jour où l'amnistie sera proclamée, je l'affirme là-haut, dans les étoiles, Voltaire sourira. Triple salve d'applaudissements, crie « Vive l'amnistie !» Messieurs, il y a entre deux serviteurs de l'humanité qui ont apparu à 1800 ans d'intervalle un rapport mystérieux. Combattre le pharisaïsme, démasquer l'imposture, terrasser les tyrannies, les usurpations, les préjugés, les mensonges, les superstitions, démolir le temple, quitte à le rebâtir, c'est-à-dire à remplacer le faux par le vrai, attaquer la magistrature féroce, attaquer le sacerdoce sanguinaire, prendre un fouet et chasser les vendeurs du sanctuaire, réclamer l'héritage des déshérités, protéger les faibles, les pauvres, les souffrants, les accablés, lutter pour les persécutés, les opprimés. C'est la guerre de Jésus-Christ. Et quel est l'homme qui a fait cette guerre? C'est Voltaire. L'œuvre évangélique a pour complément l'œuvre philosophique. L'esprit de mansuétude a commencé. L'esprit de tolérance a continué. Disons-le avec un sentiment de respect profond. Jésus a pleuré, Voltaire a souri. C'est de cette larme divine et de ce sourire humain qu'est faite la douceur de la civilisation actuelle. Voltaire a-t-il souri toujours? Non, il s'est indigné souvent. Vous l'avez vu dans mes premières paroles. Certes, messieurs, la mesure, la réserve, la proportion, c'est la loi suprême de la raison. On peut dire que la modération est la respiration même du philosophe. L'effort du sage doit être de condenser dans une sorte de certitude sereine tous les à peu près dont se compose la philosophie. Mais à de certains moments, la passion du vrai se lève puissante et violente, et elle est dans son droit, comme les grands vents qui assainissent. Jamais, j'y insiste, aucun sage n'ébranlera ces deux augustes points d'appui du labeur social, la justice et l'espérance, et tous respecteront le juge s'il incarne la justice, et tous vénéreront le prêtre s'il représente l'espérance. Mais si la magistrature s'appelle la torture, si l'Église s'appelle l'Inquisition, alors l'humanité les regarde en face et dit au juge « Je ne veux pas de ta loi » et dit au prêtre « Je ne veux pas de ton dogme, je ne veux pas de ton bûcher sur la terre et de ton enfer dans le ciel. » Alors le philosophe courroucé se dresse et dénonce le juge à la justice et dénonce le prêtre à Dieu. C'est ce qu'a fait Voltaire. Il est grand. Ce qu'a été Voltaire, je l'ai dit. Ce qu'a été son siècle, je vais le dire. Messieurs, les grands hommes sont rarement seuls. Les grands arbres semblent plus grands quand ils dominent une forêt. Ils sont là chez eux. Et il y a une forêt d'esprit autour de Voltaire. Cette forêt, c'est le 18e siècle. Parmi ces esprits, il y a des cimes, Montesquieu, Buffon, Beaumarchais, et deux d'entre autres, les plus hautes après Voltaire, Rousseau et Diderot. Ces penseurs ont appris aux hommes à raisonner. Bien raisonner mène à bien agir. La justesse dans l'esprit devient la justice dans le cœur. Ces ouvriers du progrès ont utilement travaillé. Buffon a fondé l'histoire naturelle. Beaumarchais a trouvé, au-delà de Molière, une comédie inconnue, presque la comédie sociale. Montesquieu a fait dans la loi des fouilles si profondes qu'il a réussi à exhumer le droit. Quant à Rousseau, quant à Diderot, prononçons ces deux mots à part. Diderot, vaste intelligence curieuse, cœur tendre altéré de justice, a voulu donner les notions certaines pour base aux idées vraies et a créé l'encyclopédie. Rousseau a rendu à la femme un admirable service. Il a complété la mère par la nourrice. Il a mis l'une auprès de l'autre, ces deux majestés du berceau. Rousseau, écrivain éloquent et pathétique, profond rêveur oratoire, a souvent deviné et proclamé la vérité politique. Son idéal confine au réel. Il a eu cette gloire d'être le premier en France qui se soit appelé citoyen. La fibre civique vibre en Rousseau. Ce qui vibre en Voltaire, c'est la fibre universelle. On peut dire que dans ce fécond XVIIIe siècle, Rousseau représente le peuple. Voltaire, plus vaste encore, représente l'homme. Ces puissants écrivains ont disparu, mais ils nous ont laissé leur âme, la Révolution. Oui, la Révolution française est leur âme, elle est leur émanation rayonnante. Elle vient d'eux. On les retrouve partout dans cette catastrophe bénie et superbe qui a fait la clôture du passé et l'ouverture de l'avenir. Dans cette transparence qui est propre aux révolutions et qui, à travers les causes, laisse apercevoir les effets, et à travers le premier plan, le second, on voit derrière Diderot, Danton, derrière Rousseau, Robespierre, et derrière Voltaire, Mirabeau. Ceux-ci ont fait cela. Messieurs, résumez des époques dans des noms d'hommes, nommez des siècles en faire en quelque sorte des personnages humains. Cela n'a été donné qu'à trois peuples, la Grèce, l'Italie, la France. On dit le siècle de Périclès, le siècle d'Auguste, le siècle de Léon X, le siècle de Louis XIV, et le siècle de Voltaire. Ces appellations ont un grand sens. Ce privilège, donner des noms à des siècles, exclusivement propres à la Grèce, à l'Italie et à la France, est la plus haute marque de civilisation. Jusqu'à Voltaire, ce sont des noms de chefs d'État. Voltaire est plus qu'un chef d'État. C'est un chef d'idées. À Voltaire, un cycle nouveau commence. On sent que désormais, la suprême puissance gouvernante du genre humain sera la pensée. La civilisation obéissait à la force, elle obéira à l'idéal. C'est la rupture du sceptre et du glaive remplacée par le rayon, c'est-à-dire l'autorité transfigurée en liberté. Plus d'autre souveraineté que la loi pour le peuple et la conscience pour l'individu. Pour chacun de nous, les deux aspects du progrès se dégagent nettement. Et les voici. Exercer son droit, c'est-à-dire être un homme. Accomplir son devoir, c'est-à-dire être un citoyen. Telle est la signification de ce mot, le siècle de Voltaire. Tel est le sens de cet événement auguste, la Révolution française. Les deux siècles mémorables qui ont précédé le XVIIIe l'avaient préparé. Rabelais avertit la royauté dans Gargantua, et Molière avertit l'Église dans Tartuffe. La haine de la force et le respect du droit sont visibles dans ces deux illustres esprits. Quiconque dit aujourd'hui « la force prime le droit » fait acte de Moyen-Âge et parle aux hommes de 300 ans en arrière. Messieurs, le 19e siècle glorifie le 18e. Le 18e propose, le 19e conclut. Et ma dernière parole sera la constatation tranquille mais inflexible du progrès. Les temps sont venus. Le droit a trouvé sa formule, la fédération humaine. Aujourd'hui, la force s'appelle la violence et commence à être jugée. La guerre est mise en accusation. La civilisation, sur la plainte du genre humain, instruit le procès et dresse le grand dossier criminel des conquérants et des capitaines. Ce témoin, l'histoire, est appelé. La réalité apparaît. Les éblouissements factices se dissipent. Dans beaucoup de cas, le héros est une variété de l'assassin. Les peuples en viennent à comprendre que l'agrandissement d'un forfait n'en saurait être la diminution, et que si tuer est un crime, tuer beaucoup n'en peut pas être la circonstance atténuante. Que si voler est une honte, envahir ne saurait être une gloire. Que les tédéum n'y font pas grand-chose. Que l'homicide est l'homicide, que le sang versé est le sang versé, et que cela ne sert à rien de s'appeler César ou Napoléon. Et qu'aux yeux du Dieu éternel, on ne change pas la figure du meurtre, parce qu'au lieu d'un bonnet de forçat, on lui met sur la tête une couronne d'empereur. Ah, proclamons les vérités absolues, déshonorons la guerre. Non, la gloire sanglante n'existe pas. Non, ce n'est pas bon et ce n'est pas utile de faire des cadavres. Non, il ne se veut pas que la vie travaille pour la mort. Non, ô mère qui m'entourez, il ne se veut pas que la guerre, cette voleuse, continue à vous prendre vos enfants. Non, il ne se peut pas que la femme enfante dans la douleur, que les hommes naissent, que les peuples labourent et sèment, que le paysan fertilise les champs et que l'ouvrier féconde les villes, que les penseurs méditent, que l'industrie fasse des merveilles, que le génie fasse des prodiges, que la vaste activité humaine multiplie en présence du ciel étoilé et les efforts et les créations pour aboutir à cette épouvantable exposition internationale qu'on appelle un champ de bataille. Profonde sensation, tous les assistants sont debout et acclament l'orateur. Le vrai champ de bataille, le voici, c'est ce rendez-vous des chefs d'œuvre du travail humain que Paris offre au monde en ce moment. La vraie victoire, c'est la victoire de Paris. Hélas, on ne peut se le dissimuler. L'heure actuelle, si digne qu'elle soit d'admiration et de respect, a encore des côtés funèbres. Il y a encore des ténèbres sur l'horizon. La tragédie des peuples n'est pas finie. La guerre scélérate est encore là. Elle a l'audace de lever la tête à travers cette fête auguste de la paix. Les princes, depuis 2 ans, s'obstinent à un contresens funeste. Leur discorde fait obstacle à notre concorde, et ils sont mal inspirés de nous condamner à la constatation d'un tel contraste. Que ce contraste nous ramène à Voltaire. En présence des éventualités menaçantes, soyons plus pacifiques que jamais. Tournons-nous vers ce grand mort, vers ce grand vivant, vers ce grand esprit. Inclinons-nous devant les sépulcres vénérables. Demandons conseil à celui dont la vie utile aux hommes s'est éteinte il y a 100 ans, mais dont l'œuvre est immortelle. Demandons conseil aux autres puissants penseurs, aux auxiliaires de ce glorieux Voltaire, à Jean-Jacques, à Diderot, à Montesquieu. Donnons la parole à ces grandes voix. Arrêtons l'effusion du sang humain. Assez, assez, despotes. Ah, la barbarie persiste, et bien que la philosophie proteste. Le glaive s'acharne, que la civilisation s'indigne. que le XVIIIe siècle vienne au secours du XIXe. Les philosophes, nos prédécesseurs, sont les apôtres du vrai. Invoquons ces illustres fantômes. Que devant les monarchies rêvant des guerres, ils proclament le droit de l'homme à la vie, le droit de la conscience à la liberté, la souveraineté de la raison, la sainteté du travail, la bonté de la paix. Et puisque la nuit sort des trônes, que la lumière sorte des tombeaux. Acclamation unanime et prolongée. De toutes parts éclate le cri « Vive Victor Hugo !»